Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 17, me semble-t-il, aujourd'hui. RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Bonjour Patrice, comment vas-tu ?
Bonjour à vous tous, très très bien, merci.
Bon, la semaine s'est bien passée ?
Oui, 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 sans problème.
Eh bien écoute, aujourd'hui nous allons parler travail, travail temporaire, travail intérimaire, emploi, économie. Dans le Périgord, nous avons Manpower, nous y allons juste après les actualités.
Les actualités.
Alors, selon Prisme Emploi, la Fédération des entreprises du travail temporaire, l'emploi intérimaire a représenté 740 000 postes équivalents temps plein ETP sur les 4 premiers mois de l'année 2023. Il s'agit d'une baisse de près de 3% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui fait quelques 20 000 postes équivalents temps plein de moins sur un an. Et selon l'organisme, cette tendance baissière devrait se confirmer avec les chiffres attendus pour mai et juin. Bon, donc là nous avons ici Anne-Cécile et Sophie de Manpower. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour. Merci de venir nous voir. Donc c'est parfait, nous allons pouvoir parler avec vous des bons et mauvais côtés du travail temporaire, du marché de l'emploi actuellement, notamment en Périgord, de qu'est-ce que c'est que ce métier du temporaire, et si c'est uniquement pour les métiers peu qualifiés. Aussi, on va aussi vers l'expertise. C'est parti, tout de suite après notre petit jingle.
L'invité de la semaine.
Bien, bien, bien. Donc Manpower, Anne-Cécile et Sophie, la Prisme Emploi, ils ont raison ou pas ?
Eh bien Stéphane, on peut dire que ce sont des propos qu'il faut nuancer finalement parce qu'on peut constater une certaine disparité en fonction des différents secteurs, comme par exemple dans l'IT où la demande est très forte, ou la logistique où on prétend que ce sont des secteurs en très forte croissance, mais aussi parce que c'est très dépendant du tissu économique local, par exemple en Dordogne où on a un tissu qui est très diversifié, notamment fortement orienté sur les activités tertiaires qui sont étroitement liées à l'attractivité territoriale du tourisme.
Alors aujourd'hui, Manpower est parmi nous. Trois drôles de dames, il faut le dire, hein, c'est vraiment trois drôles de dames, c'est des missions, on peut dire presque impossibles à aujourd'hui. Hein. Recrutement, ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à ceux qui ne cherchent pas de travail, ça fait peur à ceux qui en proposent. Pourquoi trois drôles de dames ? Parce qu'il y a Alix aussi, qui n'est pas présente parce qu'elle a eu une mission de dernière minute.
Nous saluons Alix.
Elle est sur le terrain. Donc, mesdames, allons directement droit au sujet. Les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter. C'est fini. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, on va compter même plusieurs années, qu'on dit que les chefs d'entreprise ne trouvent pas de collaborateurs.
On entend ça tout le temps. Ouais.
D'un autre côté, on a l'État qui nous dit, et je pense que c'est vrai, que le chômage baisse en France. Donc, d'un côté, il baisse. De l'autre côté, les chefs d'entreprise, ça veut dire que tous les Français sont au taf. C'est ça que ça veut dire ? Donc il faudrait qu'on fasse des bébés rapidement pour que dans 20 ans, on règle le problème ?
On n'en est pas là, Patrice. Alors effectivement, c'est la tendance d'aujourd'hui. Tout simplement, on le voit très régulièrement, nous, avec Anne-Cécile. Les entreprises recrutent. Elles recrutent énormément. Elles font appel aux agents d'intérim, mais aussi aux cabinets de recrutement. Pour reprendre un petit peu Manpower, et depuis quand même 70 ans expert en travail temporaire, mais pas que, puisqu'on a aussi le cabinet de recrutement pour les recrutements CDD, CDI et l'alternance. Et aujourd'hui, on est effectivement sur un marché où les entreprises recrutent. Elles recrutent en intérim, en CDD, en CDI, et ils sont prêts à tout pour trouver aujourd'hui leur talent, les futurs personnels.
Alors dites-moi, attendez, parce que c'est quand même mission impossible dans votre job, parce que vous, vous êtes entre l'employeur et le demandeur d'emploi, mais a priori, il y a un problème, parce qu'il ne se passe pas grand-chose au final, puisque les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc quel est votre souci majeur à vous ? Ce n'est pas de trouver des clients entreprises, mais c'est plutôt de trouver des candidats.
Tout à fait.
Comment vous faites ?
Alors, en effet, on a des intentions d'embauche qui sont toujours très élevées dans toutes les entreprises. En réalité, il faut aussi qu'on se rende compte avec la réalité du marché et les attentes des candidats. Donc, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent travailler, qui ont des compétences, qui ont cette volonté de s'investir dans les entreprises. Ce qu'on constate et qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à entrer dans une démarche de séduction auprès des candidats. Ce qu'on voyait pas il y a quelques années, et simplement, en fait, pour répondre à ce besoin de quête de sens des candidats, d'équilibre de vie professionnelle, personnelle. On parle de semaines de 4 jours, de niveau de rémunération. La rémunération est peut-être un sujet qui viendrait qu'en quatrième position dans un critère de choix de l'emploi. Il y a une volonté de réactivité des candidats. On le constate, nous, dans le niveau d'échange qu'on a. On échange beaucoup par SMS, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, en visio, grâce au Covid. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à ces nouveaux modes de communication. Et finalement, on peut faire un parallèle qui est très simple, c'est qu'on constate que les candidats consomment l'emploi comme n'importe quel autre produit de consommation. Ils ont besoin de réactivité, de répondre à des attentes, à une certaine sorte d'équilibre, d'être en phase avec des valeurs. Et on est là aussi pour accompagner les entreprises et faire ces remontées terrain qui sont parfois un peu rugueuses à entendre pour certains chefs d'entreprise.
Oui, alors, et ça c'est un sujet qu'on peut développer. On a cette explication de dire qu'on n'arrive pas à recruter, que l'entreprise n'arrive pas à recruter parce que l'entreprise n'est pas en phase avec les attentes des candidats. Ça, c'est une remontée que vous faites tous, enfin pas que vous, hein, pas qu'à Manpower, hein, j'ai envie de dire, c'est tout le marché de l'emploi qui fait cette... Mais est-ce que l'entreprise, elle, est prête à changer son profil de recrutement, à changer son profil de management? Ça, c'est un grand débat, alors qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de chef d'entreprise à nos côtés, mais on ne manquera pas de toute façon à traiter ce sujet-là. C'est comment l'entreprise doit-elle évoluer pour être en phase avec l'attente de ses futurs collaborateurs. Donc, en effet, ça ne doit pas être simple, vous, côté Manpower, de faire entendre à certains chefs d'entreprise qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans leur vin ou de peut-être trouver, j'ai envie de dire, des arguments ou des propositions aux futurs candidats que eux n'ont pas l'habitude du tout de faire.
Et à la fois, il faut aussi pouvoir pondérer cette prise de pouvoir des candidats. En réalité, les entreprises recrutent, mais je crois qu'on pourrait presque dire que les candidats recrutent leur future entreprise.
C'est le monde à l'envers, quand
presque.
Même. Donc celui qui a le pouvoir, c'est plus l'employeur, mais ça serait le candidat. Est-ce que c'est bien, ça? Est-ce que c'est bien? On n'est pas là pour juger, mais...
Oh, oui.
Non, c'est travailleur indépendant qui parle. Je veux dire, en fait, un travailleur indépendant, après, c'est un salarié qui prend une certaine hauteur et qui se met en position de pouvoir choisir, en fait, la personne pour qui il travaille. Est-ce que aujourd'hui, les salariés, de manière générale, ne sont pas en train d'évoluer vers une mentalité d'indépendant?
C'est à la fois aussi ce qu'on demande à un candidat qui est recruté par une entreprise, c'est-à-dire de ne pas lui dicter sa feuille de route, mais d'être relativement autonome dans les fonctions qu'il va exercer. Donc c'est garder toute la distance relative entre l'autonomie et le fait d'être salarié finalement. Donc la distance n'est pas toujours évidente.
Alors sur le sujet de l'exigence, parce que je peux tout à fait entendre que les candidats maintenant ont des exigences, est-ce que ces exigences sont louables? Est-ce qu'ils ont une formation? Est-ce qu'ils ont une valeur sur le marché de l'emploi qui leur permette de pouvoir dire « Non, messieurs les employeurs, je ne suis pas prêt à prendre n'importe quoi ». Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a vraiment à aujourd'hui sur le marché de l'emploi des salariés qualifiés qui peuvent avoir des prétentions et des exigences?
Oui, alors oui, notamment en intérim, effectivement, sur le marché, je vais aller plutôt sur le marché du BTP, où on est en pénurie de candidats, et effectivement, ils le savent, les candidats le savent. Par exemple, un plombier, forcément, on va le proposer à une entreprise, et l'entreprise va se plier un petit peu aux exigences du candidat, donc en termes de rémunération, même d'horaire, c'est le candidat complètement qui choisit. Finalement, et l'entreprise va le prendre puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix.
Oui, mais Sophie, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais sur le côté de la formation, quel est votre regard, vous, par rapport à, il y a des employeurs qui cherchent des collaborateurs, et est-ce que dans le monde du travail, dans les candidats disponibles, est-ce qu'il y a des candidats formés?
Oui, bien sûr, il y a des candidats formés. Alors, il y en a. Aujourd'hui, en plus de ça, on forme les entreprises forment directement. Si jamais elles ne trouvent pas des candidats qui sont formés, aujourd'hui, je pense que tu voulais sûrement venir ici. Pour pouvoir avoir plus de candidats, les entreprises nous demandent de trouver des candidats qui ont un savoir-être, que nous, on va identifier et qu'on va dire cette personne-là, elle est faite pour aller dans cette entreprise-là, mais elle n'est pas formée. Donc, on va effectivement mettre en place, nous, des formations parce qu'il y a un manque de formation aujourd'hui. Et l'État a quand même, avec le CPF et plein de dispositifs de formation, mis en place ce type, en tout cas, de subvention.
Merci, ça c'est très important.
Oui. Pour corroborer les propos de Sophie, en effet, la formation, ça devient un des enjeux des entreprises principaux à venir, parce que on a des pénuries selon certains métiers, certaines qualifications, certaines professions. Donc effectivement, tout l'enjeu va être d'identifier le potentiel à apprendre, à se projeter, et ça, les entreprises, malheureusement, à part le pifomètre, n'ont pas forcément les outils nécessaires, et c'est là aussi on va pouvoir nous intervenir dans cette évaluation-là, parce que c'est une des solutions qui va pouvoir être apportée pour pallier à cette pénurie.
Alors c'est très important ce sujet-là de la formation, parce que, un, il y a beaucoup de candidats, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de formation. Alors, n'ont pas de formation, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de diplôme, si on part du principe que le baccalauréat reste un diplôme. Donc, appelons un chat un chat.
C'est une hypothèse.
Le baccalauréat n'a plus de valeur à aujourd'hui. Je parle sur le marché de l'emploi, je parle à travers le regard d'un chef d'entreprise. Le baccalauréat, c'est un passage obligatoire, mais ce n'est pas un, c'est pas une formation, en aucun cas.
Tout à fait.
Donc, beaucoup de jeunes ont le baccalauréat, font quelques années en école supérieure, et puis ça s'arrête là. Ils ont un bac plus 2, alors avec ou sans diplôme, mais même s'ils ont un diplôme, même avec un bac plus 3, on ne peut pas dire qu'ils aient un métier.
Non.
D'accord ?
C'est assez difficile finalement de faire des généralités, parce que déjà chaque entreprise a sa problématique qui est intrinsèque à l'activité, au secteur, etc. Et puis parfois il y a un diplôme qui est un prérequis pour exercer le métier, qui est la condition sine qua non. Et à la fois, plus l'expérience va grandir, et moins le diplôme aura de valeur, puisque c'est l'expérience qui sera valorisée. Donc c'est assez difficile de faire des généralités ou des propos comme ça qu'on pourrait tenir, quelle que soit la typologie de problématique, en fait.
Un bac plus 2 ou un bac plus 3, je souris en disant ça, mais à aujourd'hui, quand je vois des offres d'emploi qui ont encore cette exigence, hein, ça ne veut plus rien dire, quoi. Alors déjà, bac plus 2, bac plus 3 ne veut rien dire. Si tant est, on l'est, et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, mais c'est pas pour ça que... Enfin, c'est un critère qui, à aujourd'hui, est obsolète, à mon goût.
Alors c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement une contradiction extrêmement française ici. Nous sommes une culture extrêmement axée sur le diplôme, les certifications, les justifications. Et en même temps, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre la formation scolaire, universitaire, et les besoins de l'entreprise. Manpower, pour savoir, c'est combien d'offres d'emploi, combien de personnes par an ? Alors, à la louche,
en,
à la louche,
en, allons-y comme ça. En Dordogne, sur le marché de l'emploi, en CDI, l'année dernière, ça représente pour Manpower une centaine de candidats mis en poste.
D'accord.
Et de gens qui restent.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, Manpower, bon, en fait, là où je voulais en venir, c'est que Manpower est un recruteur et quelqu'un qui brasse les ressources humaines dans notre pays. C'est un acteur qui, quand même, à un certain point, une certaine implication. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la formation scolaire de nos jeunes et de nos gens, là, pour qu'ils correspondent aux besoins que vous constatez, vous, sur le terrain ?
Essentiellement via l'alternance.
Ah, donc on revient à ce grand débat, promouvoir l'alternance, immerger le jeune et le jeune adulte dans le monde professionnel et scolaire simultanément.
Concrètement, c'était plutôt la voie de garage. Si on n'était pas bon à l'école, tu es en alternance. C'était vraiment...
C'est une erreur fondamentale, ça.
Complètement, puisque c'est très concret. Il y a 2 ans, quand un client nous émettait son cahier des charges en nous disant « Je veux quelqu'un qui a entre 4 à 5 ans d'expérience sur le métier avant de recruter », la question qu'on posait, c'était alternance comprise, oui ou non. Il y a 2 ans, la réponse était non. Aujourd'hui, vous posez la question, la réponse est oui. C'est valorisé comme une vraie année d'expérience professionnelle.
Oui, c'est un ascenseur social aussi, hein, parce que certaines formations sont très chères. Moi, je suis diplômé de l'ESGI, qui fait beaucoup de... Comme supérieur de génie informatique, qui fait énormément de formations pour... Qui forme des ingénieurs, hein, des bacs plus 5 en technologie, mais qui permet de financer ses études par l'alternance. Ce qui veut dire que le ticket d'entrée n'est plus le milieu familial, mais est la volonté de la personne qui va apprendre, de l'entreprise. Et quelles que soient vos origines, quel que soit votre background, votre passé, vos moyens financiers familiaux, vous pouvez aller vous former en fonction de vos capacités. Et de... Non, l'alternance, effectivement, mérite que... Manpower fait de l'alternance ?
On fait de l'alternance et on est sollicité de plus en plus par les entreprises pour externaliser des recrutements d'alternants. C'est le pari que fait l'entreprise de former un jeune pendant 2 ans, et d'ailleurs un moins jeune, puisqu'il y a beaucoup de reconversions, de reprises d'activité, de formation. C'est un pari pour l'entreprise que de passer 2 ans à former quelqu'un. Donc, on nous sollicite pour pouvoir évaluer ce potentiel et puis les leviers de motivation que sont ceux du candidat.
Alors, et l'intérim, parce que, bien évidemment, on vous connaît sur cette étiquette-là, vous et vos confrères, et Dieu sait s'il y a... vous êtes nombreux, d'ailleurs, sur la place. L'intérim, c'est un marché qui est en développement ?
Oui. Tout à fait. C'est en développement parce que les entreprises ont besoin de nous, tout simplement parce que on offre la flexibilité aux entreprises, on offre du sourcing rapide et aussi la simplification des gestions administratives, qui est aujourd'hui pas des moindres parce que c'est compliqué, on le sait, dans les entreprises. Alors après... Je vais rebondir aussi sur l'alternance, parce qu'effectivement, il y a l'alternance sur le CDI, mais nous, on fait aussi l'alternance en intérim, c'est-à-dire qu'on fait des contrats de professionnalisation intérimaire, où on va, avec une entreprise, avoir un partenariat et faire un contrat de formation sur de formations qualifiantes d'adultes, en fait, et souvent des personnes qui sont en reconversion. Donc nous, on essaye de trouver des intérimaires, en général, qui travaillent déjà avec nous, on les sonde un petit peu et à l'issue de cette formation-là, soit ils sont embauchés directement dans les entreprises, dans l'entreprise avec laquelle on a fait l'alternance, ou sinon on les garde avec nous en CDI intérimaire, parce qu'on a aussi maintenant le CDI intérimaire.
Sophie, expliquez-nous un peu quel est le profil d'un intérimaire en 2023. À quoi il ressemble ? Ce sont des hommes, des femmes, quels sont leurs âges, dans quel type de métier.
Est-ce qu'ils sont volontairement intérimaires ?
C'est un choix ou c'est lieu où on subit ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, l'intérim n'est pas l'image qu'on avait en tout cas avant. Avant, l'intérim, c'était vraiment des petits contrats à la volée.
Très précaire.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que déjà, des entreprises avec des métiers plus qualifiés nous demandent de l'intérim. Donc, on est capable de faire de l'intérim sur des métiers d'agent de maîtrise, voire même de cadre. Donc,
Vous demander à un expert durant 3 semaines pour tel point. Ça peut arriver, ce sont des missions qu'on peut croiser chez vous qui n'existaient pas il y a 20 ans.
Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est dans un chamboulement, en tout cas, du monde du travail et l'intérim n'est plus ce qu'on pensait. On a des jeunes de 18 ans jusqu'à même à des retraités qui viennent aujourd'hui pour faire des compléments. Alors que je pense que... Alors, je ne suis pas assez vieille, on va dire, je n'ai pas assez de recul, en tout cas, pour savoir si avant ça se faisait, mais je ne pense pas, puisque, effectivement, aujourd'hui, c'est... les retraités viennent, en tout cas, pour des compléments. Les jeunes aussi, les étudiants, énormément d'étudiants cet été, qui viennent s'inscrire en agence. Et après, on a vraiment de tout profil, du tertiaire, du BTP, du transport, vraiment de l'industrie, parce qu'on fait beaucoup d'industrie, en tout cas, en Périgord. Donc voilà, on est vraiment sur divers profils. Il y a de tout. Je ne peux pas te dire...
C'est ce que je voulais savoir, parce que j'avais ce sentiment-là que sur l'intérim, ça brasse des populations, des profils qui n'existaient pas il y a quelques années. Quand tu parlais de retraités qui se mettent à travailler en intérim, alors ça peut paraître très surprenant comme ça, dit comme ça, sans préparation, et d'ailleurs... On peut déjà, sans avoir de boule de cristal, mais on peut déjà être sûr et certain que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de retraités. C'est logique, une fois de plus, c'est arithmétique. Les retraites vont être de plus en plus basses par rapport au niveau du coût de la vie. Donc on va avoir malheureusement les futurs retraités de plus en plus de problèmes de vivre avec les retraites. Donc il va bien falloir trouver des compléments de salaire, de revenus par rapport à la retraite. Et puis aussi parce que peut-être que On a ici une espérance de vie qui se rallonge, hein, et qu'un jeune retraité peut très facilement s'emmerder, appelons un chat, et de se dire, en fin de compte, les vacances, c'est bien, mais si j'avais quand même une petite activité de temps en temps, ce ne serait pas déplaisant non plus.
Et puis, il y a un autre pan de l'intérim qu'on constate, nous, sur la partie recrutement, c'est que c'est souvent utilisé en guise de période d'essai. Sauf que c'est une erreur, puisque, comme disait Sophie, il y a aussi un réel choix des intérimaires que de rester intérimaire, parce qu'il n'y a plus cette notion de précarité qui est liée, encore une fois, à la pénurie de certains métiers, dont on sait que l'activité sera toujours existante. Et c'est une erreur, parce que ce sont des candidats à qui on peut potentiellement proposer un CDI et qui volontairement le refuseront.
Alors là, on se tourne sur ce que disait Stéphane il y a quelques minutes de ça. L'intérim, il y a des profils, hein, qui veulent rester en intérim. Pourquoi ? Alors déjà, parce que c'est un peu mieux payé, hein, l'intérim. Okay. Et puis aussi, surtout si, parce qu'ils se sentent beaucoup plus libres, parce qu'ils partent du principe que si je tombe sur un employeur qui est un con, appelons un chat, en tout cas qui ne me convient pas, je m'en fous, puisque je travaillerai pour lui pendant un certain temps, et puis ça va s'arrêter, je passerai chez quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça, on peut changer, on peut passer dans l'environnement à un autre, quand on a fait le tour d'une position pour en trouver une autre. Ça, c'est l'avantage qu'il peut y avoir, oui, pour la personne.
Ouais. Donc il y a cette notion qui n'existait pas il y a quelques années de ça, au niveau des salariés, au niveau des employés, d'avoir une certaine liberté, un certain choix, de pouvoir travailler dans les conditions dont certaines conditions et pas d'autres, et de pouvoir être libre, ma foi, de passer d'un autre employeur ou d'une mission à une autre. Et l'intérim est un bon exercice, est un bon outil pour avoir cette vie professionnelle.
Et encore une fois, c'est le parallèle identique entre la manière dont on consomme et la manière dont on travaille.
Tout à fait, c'est une bonne représentation.
Alors là, maintenant, on a vu les bons côtés qu'il peut y avoir pour l'employé, pour la personne, pour la ressource. Hein, on va employer le terme technique, hein, il ne faut rien y voir. Par contre, on va regarder les choses en face, parce qu'il y a forcément parfois certains points qu'il faut aussi... il faut le regarder, il ne faut pas hésiter à les regarder. Hein, l'intérim, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour l'entreprise de contourner les contraintes légales, administratives, protectionnistes, de moins s'impliquer dans le risque d'engager quelqu'un définitivement qui ne pourra plus partir après? Est-ce que pour l'entreprise, l'intérim n'est pas une manière de contourner cette espèce de charge française de manière générale?
Alors oui, effectivement.
D'accord, on va le reconnaître. C'est aussi un effet pervers de notre surlégislation, notre surréglementation.
Tout à fait. Après, ça permet... effectivement, l'entreprise, elle n'embauche pas une personne de plus qui va gérer l'administratif. Donc déjà, ça lui fera aussi des coûts en moins.
Donc elle délègue aussi tout le traitement qui va
avec.
Tout à
fait. Tout à fait. On n'a pas cette charge, que ce soit l'URSSAF, toutes les déclarations à faire qui sont à notre charge.
Et le guichet unique, le grand reste de l'entrepreneur.
Voilà, c'est ça. Après, attention, l'entreprise se doit de déclarer effectivement des heures quand même. Elle doit déclarer qu'elle travaille avec des intérimaires. Mais effectivement, c'est très simple puisque ça va être un nombre d'heures à déclarer sur l'année avec un volant d'intérimaires.
Je suppose que vous allez les aider à faire leur déclaration.
Voilà,
on les aide. En fait, voilà, donc l'entreprise a un interlocuteur qui va prendre pour lui tous les aspects de tous les bureaux concernés, tous les formulaires concernés. Et le jour où ça se passe moins bien avec sa ressource, va pouvoir en changer aussi plus facilement.
Tout à fait.
D'accord, donc, on va appeler un chat, hein, pour l'entreprise. C'est aussi une flexibilité et puis un confort administratif.
Tout à fait, c'est ça.
Alors si on parle maintenant du marché de l'intérim et du marché de... Comment on peut vous qualifier d'ailleurs votre métier? Il n'y a pas que l'intérim, puisque vous faites du recrutement. Vous êtes quoi? Vous êtes l'accompagnateur des entreprises pour son évolution de sa masse salariale. Comment on peut appeler ça, votre métier, d'ailleurs?
On est des marchands de solutions et d'optimisme pour les chefs d'entreprise qui sont dans une sinistrose.
Alors,
terrible.
Je confie, enfin, c'est pas moi qui a compté.
Comment ils vont?
Pas bien.
Pas bien.
Et tant mieux pour nous.
j'ai pas compté. On m'a donné un chiffre que je n'ai pas contrôlé, mais a priori, sur la place de la Dordogne, vous seriez plus d'une vingtaine. de professionnels à proposer vos services et aux entreprises et aux candidats. Ça fait pas un peu beaucoup, ça? Alors, moi, je me permets de vous poser cette question-là. Pourquoi? Parce que vous êtes un des plus gros, hein, donc j'ai pas peur de vous faire de vous inquiéter par ma question. Mais vous êtes plus de 20 agences d'intérim à aujourd'hui.
Oui, effectivement, on est même plus de 23, parce qu'on doit être 24 ou 25 maintenant, avec encore des agences qui se rajoutent. Alors non, on n'est pas inquiet dans le sens où, en Dordogne, il y a quand même de l'emploi. On a beaucoup d'industries. Patrice, tu le sais comme moi, on a des belles pépites en Dordogne. Donc non, nous, on n'est pas inquiet. De toute façon, on ne pourrait pas être les seuls sur la place de l'intérim, en tout cas. Tout simplement parce que il y a trop de demandes. Et la preuve, même en ayant 24 agences de travail temporaire, les entreprises n'arrivent pas à trouver leur bonheur.
Donc, quelle est votre relation? Vous vous attendez avec des kalachnikovs au bout des rues quand vous voyez passer un concurrent, ou au contraire, c'est une relation très, très courtoise et...
On n'a pas forcément de relation...
Chacun dans son coin.
Oui, voilà, c'est ça. Après,
vous n'avez pas trouvé le moyen encore de mutualiser vos demandes, de travailler ensemble, et au lieu de vous faire la compétition, de faire des systèmes, par exemple, comme les appels d'offres, comme les aviations, les trains et autres, pour partager les ressources en fonction des demandes?
En fait, la mutualisation, elle va se passer plutôt entre les deux lignes de service, où Sophie, elle va plutôt répondre à une demande qui est urgente et ponctuelle et nous pérenne, et l'un ne peut pas être indépendant de l'autre.
Les anglo-saxons ont une position par rapport à la concurrence qui est beaucoup plus ouverte vers le business que la nôtre, par exemple.
Après, on va nécessairement rencontrer les mêmes problématiques que les autres agences de recrutement ou d'intérim. Globalement, on dispose tous des mêmes outils de recherche de candidats, puisque l'enjeu, c'est la ressource.
Vous ne partagez pas les bourses de CV, vous ne partagez pas les offres d'emploi, vous ne partagez pas... Parce que vous avez une demande que vous ne trouvez pas, vous n'appelez pas le copain pour...
On dispose des mêmes outils, en fait, donc on va être amené à sourcer les mêmes candidats. Les éléments de différenciation, ils vont se jouer dans ce que nous, on a décidé d'en faire et de ce qu'on a compris, en fait.
D'accord. Il y a un avantage à appartenir à une grosse enseigne comme Manpower, ou d'être indépendant?
Bien évidemment, parce que on a Manpower, par exemple, nous offre en tout cas la possibilité d'aller sur ce qu'on appelle des job boards, qui sont assez chers, donc payants à l'année, et c'est le Manpower ou d'autres grosses structures peuvent se le permettre. Alors je ne sais plus combien on a de job boards, mais on a beaucoup de...
Oui, il y a beaucoup de job boards, mais globalement sur la CV Tech de Manpower, ça doit représenter à peu près 2 millions de CV, donc il y a de quoi faire quand même à étudier. Ça, c'est relativement intéressant. Et puis, je pense qu'on est une des rares entreprises à utiliser le CRM dans le cadre des ressources humaines, ce qui veut dire qu'on a... Manpower a décidé de traiter le candidat comme le client, en fait, de lui faire vivre une réelle expérience de suivi. Et ça, c'est un réel avantage qu'on a à être dans une enseigne.
Okay. Merci, mesdames. L'émission va bientôt s'arrêter dans une minute et demie. Comment on pourrait conclure notre émission? En fin de compte, c'est quoi votre rêve, vous, en tant que professionnel du recrutement et de l'intérim?
Qu'on ait plein de candidats qui se présentent à l'agence et qu'on puisse fournir à nos entreprises. Ça serait notre rêve.
Oui, mais le besoin aujourd'hui, c'est plus des candidats que des offres.
Oui.
D'accord, il faut le préciser, c'est intéressant.
Tout à fait.
En tout cas, petit mot, dernier mot de la fin, n'hésitez pas, vous, auditeurs qui recherchez de l'emploi, à aller... vous présenter dans ces agences Manpower, parce que un, il y a plusieurs solutions qui sont à votre disposition pour trouver du travail qui peut vous convenir. Merci encore à vous, mesdames. Stéphane.
Et ben voilà, c'était Patrice et Stéphane sur RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. N'oubliez pas de liker le podcast YouTube si jamais vous nous écoutez sur la plateforme, ou le podcast de manière générale. Pat, à la semaine prochaine.
Bien sûr, à la semaine prochaine.
Et bien voilà, mesdames, merci beaucoup d'être venues.
Merci.
À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.
À bientôt.
RLP Business.
D'entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.